On inspire. On expire. On respire. On souffle.
Carbone zéro.
Une émission pour semer des idées,
planter des projets,
récolter des solutions, afin que le monde et la Terre tournent plus rond. Saint-Vira, le syndicat des vignerons indépendants d'Alsace, vous propose...
Chut ! Car c'est l'instant de se taire, de lever vers la voûte un verre pensu, puis l'œil d'abord, le nez ensuite, la bouche enfin, béni soit ce... Au fait, comment l'appelez-vous ? Ce velours, cette flamme, ce suc, parfait dans toutes ses proportions, plein d'arrière-pensée ?
On l'appelle vin, élixir, douceur, plaisir, ivresse, et c'est tout un art. Émission spéciale Carbone Zéro, deuxième volet, le vin et ses arômes.
Le vin, certes, il y a de l'alcool, mais c'est un support aromatique très important. C'est ce qui permet de l'apprécier beaucoup plus. Je crois qu'il faut surtout rappeler que le vin, c'est une tradition qui date de bien avant l'époque romaine. Déjà, les Égyptiens consommaient du vin. Et à quel moment? Surtout pendant les moments festifs, alors que sur la consommation journalière, c'était de la bière. Alors que sur des moments qui étaient un moment de fête ou de regroupement, de plaisir, c'était le vin qui était consommé. Aujourd'hui, on a tendance à vouloir considérer que mettre le vin dans les mêmes catégories que certains autres alcools, beaucoup plus fort, alors qu'on oublie que le vin, c'est un produit qui s'associe très, très bien avec différents plats. On fait des accords mets-vins fabuleux où on peut avoir beaucoup, beaucoup de plaisir.
Alors comment vous réagiriez si vous vous mettez dans une culture où l'alcool est interdit ?
Toutes les civilisations dans le monde qui se sont développées au cours des millénaires, il y a toujours eu des fermentations de produits, et souvent les civilisations qui ont eu un développement d'esprit ou une forme de cohérence sociale, il y a souvent le vin qui est un... Après, ça dépend les hémisphères, mais la base... Pourquoi le vin ? Effectivement, il y a de l'alcool qui est un support qui permet d'exprimer une diversité aromatique. On a quand même plus de 2000 constituants dans un vin. Alors, il y a des... Pourquoi, avec le fraîche paradoxe, pourquoi le vin est aussi bien apprécié et pas uniquement mis à la rue comme certains lobbying voudraient le faire ? C'est que même le corps humain, quelqu'un qui n'a jamais consommé du vin, le corps fabrique un minimum d'alcool. Pour se défendre, et ça fait partie intégrante du corps humain. Après, il y a une notion de bien-être et de diversité aromatique, culinaire, des liens sociaux, et c'est des éléments qu'il ne faut pas oublier. Malheureusement, on est un petit peu mal vu, et il y a très peu d'études qui montrent ou qui travaillent sur les vertus pour le corps humain et l'entretien. On peut citer des resveratrol au niveau des tanins, les vins blancs, il y a des choses particulières au niveau de la mémoire. Peut-être des études qui sont en train de travailler sur Alzheimer vont montrer l'effet favorisant sur certains produits à condition qu'ils sont travaillés dans le respect de la culture de la vigne pour obtenir un vin avec une identité forte. Et ça, en France, effectivement, on est un petit peu diabolisé. On a plutôt l'influence des cultures nordiques qui sont en train de migrer un peu en Alsace. On perd un peu notre savoir-vivre, boire et manger, mais dans le côté liens sociaux entre les intergénérationnels. Et on est plutôt en train, l'État ou le système français nous pousse plutôt à être très individualiste. Il ne faut pas oublier que quelqu'un qui veut entre guillemets se... Se beurrer la gueule. Hein. Du vin, il ne va pas en prendre, ça va lui coûter trop cher. Il peut prendre des alcoophores ou des prémix ou d'autres choses, parce qu'il y a un effet rapide. Le vin, il y a une notion d'échange et de partage. C'est très rare de voir des gens qui vont ouvrir une bouteille toute seule. Ils vont la partager avec son épouse, avec des amis qui viennent. Il y a cet échange de convivialité, mais aussi en mangeant des plats, l'amélioration des connaissances gustatives du produit qui se fait à travers le vin. Après, le travail du vigneron, c'est d'arriver justement à exprimer une identité particulière pour obtenir ce résultat en finale.
Avant le repas, il allait au chai, une bouteille vide à la main. Dans la salle à manger, les enfants buvaient l'apéritif. Les petits-enfants piaillaient. Un parfum de poulet rôti, de petits pois frais et de feux de bois flottait dans toute la maison. Lui, il n'aimait pas l'apéritif. Saloperie, chimique. Il cultivait 5 rangs de vignes, au nord du village, d'où il tirait le vin de sa consommation, 300, 350 litres par an. Sa piquette lui avait dit des choses qui le laissaient rêveur.
Le monde du viticole est plutôt mal vu parce que c'est tout le monde agricole ou paysan. Tous les jours, on a quand même besoin de manger et d'avoir quelque chose dans l'assiette. Après, les gens, on a une évolution de société qui fait qu'on a plutôt tendance à plutôt avoir l'iPhone, Internet, aller en vacances 3 fois ou 4 fois et peut-être moins dépenser pour manger une bonne côte de bœuf et boire un bon vin. On va chercher des petits prix ou des prix transformés. Si vous prenez un citoyen lambda, bien manger ou bien vivre, c'est sûr, il se payera peut-être d'autres petits plaisirs en moins. Mais au niveau, vous voyez, des personnes âgées ou des gens qui ont fait aussi quelques excès dans la veille, c'est pas le fait de vivre correctement, humainement. Mais il y a une notion de plaisir et de partage qui est très importante, mais ça marche en ayant une alimentation relativement saine. Et ça fait qu'on a des sacrifices aussi, ça dépend où on met la priorité. Je veux dire, en France, le panier moyen de la ménagère, c'est plus l'alimentation. Cet argent est utilisé pour autre chose, c'est un choix de société. Les gens ont tout à fait le choix. On a la chance d'avoir encore des pays ou des nouveaux pays qui recommencent à découvrir et à apprendre, on va dire, ce savoir-vivre français. Qui a plutôt, malheureusement pour nous, on voit que ça se déprécie un peu en France.
Donc il y a tout un travail éducatif à faire finalement autour de la vigne, autour du vin, parce que c'est pas donné, c'est pas quelque chose d'inné de savoir apprécier un vin, de reconnaître les différents vins.
Je trouve que dans nos clients que l'on rencontre très régulièrement, il y a, je dirais, une catégorie de gens parmi nos clients d'Alsace, qui avaient tendance à vieillir, une population plutôt vieillissante, et avec des enfants qui eux-mêmes consommaient un peu moins de vin, ou peut-être même pas du tout de vin. Il y a des familles entières qui n'ont pas du tout de culture de vin, des familles de 40, 45, 45 ans, et qui n'ont jamais éduqué leurs enfants. La notion de ce que disait tout à l'heure un peu Pierre, c'est à cause de cette l'évolution de la consommation, de l'évolution aussi des réseaux de vente. La grande distribution a quand même mis en place tout un ensemble de produits qui sont devenus beaucoup plus standards. Autrefois, on achetait beaucoup plus de fruits et légumes au marché. C'était des fruits et des légumes qui avaient du goût. Nos enfants ou ma génération, on a été peut-être un peu plus à éduquer avec des produits, des tomates qui étaient élevées en serre, qui n'avaient plus aucun goût finalement de tomates, mais qui étaient très belles, magnifiques, elles sont très belles. Alors dès qu'elles n'étaient pas très belles, on se dit, tiens, c'est pas une bonne tomate. Et toute cette génération-là, finalement, s'est retrouvée avec un goût très standard. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que des jeunes qui sont étudiants encore ou qui viennent de finir leurs études, beaucoup, quand ils sont plutôt dans des formations supérieures, s'intéressent au vin et souvent n'ont pas eu cette culture de vin chez leurs parents, mais s'y intéressent parce qu'ils se rendent compte que souvent,
souvent, lors de certains dîners, ben, il y a ce caractère social. On se retrouve autour d'une belle table, autour de personnes qui peuvent être intéressantes, à tout point de vue, professionnellement ou autre. Mais on en vient toujours à table de parler à un moment donné d'un vin, de dire « tiens, j'ai goûté ce type de produit ». Ça, il y a des jeunes qui essaient de s'y accrocher, de le faire. Mais je pense que la population qui aujourd'hui s'intéresse à ça est beaucoup moins importante que ça ne l'a été il y a quelques années. Mais je pense que c'est lié à cette évolution de nos consommations.
C'est vrai qu'il y a tout un univers autour du vin, autour du champ lexical. Quand on parle d'un vin, on en parle presque comme d'une femme. Et ça, c'est du vocabulaire qu'il faut apprendre.
Mais il y a des vins qui sont caractérisés masculins, d'autres féminins. Mais ça a une relation en fonction d'un village, d'un climat, d'un terroir. Et même dans la description du vin lui-même, il y a des clés de lecture. Souvent, le consommateur classique peut être frustré, il dit « oui, je ne sais pas dire quel arôme, ça sent tel fruit, telle fleur, telle saveur ou tel aliment ou telle notion d'épices et ainsi de suite ». Mais on voit que même le consommateur qui se dit néophyte, c'est assez surprenant de voir qu'un client vient au caveau, il avait aimé tel terroir, parce que chaque vigneron dans l'association Vigne Vivante vinifie ses identités, chaque terroir séparément. Et on voit qu'il y a des gens qui aiment, par exemple, ce cru. Il y a des gens qui aiment l'acidité, le côté cristallin, la vivacité. Ils aiment ce cru, tant à l'opposé, un lieu dit Cap Levé, qui est plus floral, plus féminin. Ils vont moins préférer. Alors ce client revient l'année suivante ou deux ans après. Il refait la dégustation sans regarder ce qu'il avait acheté. Et comme par enchantement, nous, on le sait, on sait... Il va rechoisir le même cuvée qu'il a aimé. Il ne sait peut-être pas identifier, mettre le nom, mais ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'il prend du plaisir à ouvrir cette bouteille et quand ses amis vont venir, et d'échanger, de pouvoir parler de plein de sujets de la vie et aussi du vin et l'aspect alimentaire avec.
Je ne savais pas qu'on pouvait dire d'un vin qu'il est plutôt féminin ou plutôt masculin, donc ça m'intéresse de différencier les deux. Qu'est-ce que c'est qu'un vin féminin ?
Un vin féminin, on peut prendre un exemple très simple en restant sur des cépages. Prenons par exemple un Gewürztraminer, c'est un vin très parfumé. C'est des arômes, c'est un véritable parfum. C'est typiquement ce qu'on pourrait appeler déjà un vin avec une certaine douceur, une certaine sensualité aussi, qui exalte les papilles d'une certaine façon. Ça pourra être amené un peu plus féminin ensuite. Vous avez certains autres cépages, comme certains Riesling, pas tous, parce que chacun a son identité et son style en fonction du terroir sur lequel il provient. Mais par exemple, sur des sols sablonneux ou des granites, vous avez des Riesling qui sont un peu plus masculins, qui sont un peu plus virils par leur fraîcheur. Voyez, donc on peut caractériser ça de cette façon-là. Mais je voulais rajouter peut-être quelque chose par rapport à ce que disait Pierre tout à l'heure aussi, à propos du vin. Il ne faut pas oublier que le vin, c'est une matière vivante. À chaque année, vous avez des nouvelles naissances, en fait. C'est pratiquement des naissances qui se font. Le vin, il naît dans la vigne, c'est là la base. C'est là qu'on fait déjà le vin. Dans tout le travail que l'on fait dans la vigne, ça va conditionner la qualité que vous allez avoir en produit final. En cave, ce que l'on fait à la cave, c'est uniquement la continuité de ce qu'on a surtout fait en vigne. Vous ne pourrez jamais faire mieux en cave que ce que vous donne le raisin. Jamais. Par contre, vous pourrez faire vraiment pire en cave si vous êtes mauvais à la cave. Là, vous pouvez avoir une très bonne qualité de raisin, mais vous ne ferez jamais quelque chose de bien en produit final. Mais c'est quand même ici, à la base, que tout se fait.
Enfin, la notion de la longévité du vin était beaucoup plus connue historiquement, on va dire jusqu'à la Révolution française, au XVe siècle. Il ne faut pas oublier, l'Alsace, c'est une bande de 1 à 4 km de large sur tout le vignoble. On va dire, elle fait 15 500 hectares. Historiquement, l'Alsace comptait au plus fort jusqu'à 30 000 hectares, donc le double. Mais la connaissance du vin traversait nos frontières. Et il y avait des vins qui avaient des potentiels de garde 50 ans, 60 ans, sans aucun problème. On parlait de diversité de types de sol. Je prends un village comme Rorschwihr, il fait 147 hectares. On a 21 types de sols différents. Donc on peut faire 21 types. Une identité totalement différente, donc on a des masculins, des féminins, effectivement. Et après, il y a des vins qui s'ouvrent plus rapidement, qu'on dit qu'ils sont trop jeunes ou dans leur. Et des vins où il faut absolument garder, qui vont que s'épanouir une fois qu'ils ont 5-10 ans de bouteille. À l'opposé, il y a d'autres terroirs qui sont la commune voisine, par exemple Roderne, donne des vins beaucoup plus charmeurs tout de suite dans leur jeune âge.
C'est génial parce qu'il y a vraiment une personnification des vins à travers le vocabulaire que vous employez, vous en faites quelque chose de vivant.
Mais c'est plus important encore que ça, on a même le cycle de la vigne, enfin c'est comme en cuisine, le cuisinier il n'a pas un poisson de bonne qualité, il peut pas le réussir. Nous, on n'a pas un raisin de grande qualité, on n'arrivera pas à obtenir un vin et un partage qui va se faire quand la bouteille va ouverte par le consommateur. Et le rôle du vigneron, c'est de trouver les clés de lecture de la nature, du sous-sol, de la plante, en fonction du climat et du lieu où il est présent, et d'essayer de chercher l'extrême du millésime pour avoir une identité bien particulière. Après, il cherchera le consommateur qui voudra échanger ou comprendre cette diversité. Tous ne veulent pas faire l'effort, mais il y a un minimum de compréhension, mais qui est à la portée de tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir c'est comme quelqu'un prend un dictionnaire, on n'a pas besoin de connaître tous les mots dans le dictionnaire pour s'en servir.
Mais en même temps, ça paraît un peu élitiste quand même comme milieu, parce que pour pouvoir se rendre compte de ce qu'un vin, il faut le goûter, il faut développer ses papilles, c'est une éducation.
Mais l'éducation peut se faire déjà, pour ceux qui s'y intéressent, elle peut se faire seule, hein, à découvrir, à prendre des notes sur ce qu'on le ressent, parce qu'il se passe beaucoup de choses avec un vin. Quand vous le sentez, il y a tous les sens qui se mettent en route, hein, quand vous dégustez un vin. Et je dirais, il y a le fait de le voir aussi, déjà en regardant, le sentir, l'écouter aussi. L'écouter, il a des choses à dire aussi de temps à autre, le vin. C'est assez impressionnant. Et même pour quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose, c'est déjà de déguster, l'acte de dégustation. Bon, il existe des livres là-dessus, il y a des formations aussi, il y a beaucoup de clubs d'œnologie qui se créent un peu partout, et où on essaie d'apprendre aux gens à comprendre, à ressentir certaines choses, mais ses propres choses. Hein, il y a pas chacun d'entre nous ressentira certaines choses sur des vins plus ou moins fortement, ou certains sentiront certains arômes plus spécifiquement.
C'est la chance du vin, en fait. C'est un produit, on va dire, tellement noble et complexe, que vous prenez un groupe de 20 personnes sur le même vin, chacun peut aimer autre chose dans ce vin-là. Entre un vin dit banal, on va dire à petit prix et sans caractère, que vous pouvez faire, où il y a la notion, ce que nous, entre vignons, on appelle la notion d'alcool dans le vin, c'est-à-dire, on va dire, de l'eau et de l'alcool, pas cette dimension qu'on va appeler de vin. Si vous avez un vin, ben, vous prenez un groupe de, on va dire, 20-30 personnes. Il y en a qui vont aimer le premier nez, les premiers arômes au nez, d'autres le début de bouche, d'autres la fin de bouche. Et chacun peut citer autre chose. Je veux dire, il y a plus de 2000 éléments dans un vin. Là, quand on discute avec des gens qui travaillent dans la parfumerie, ils adoreraient capter tous les arômes d'un Gewürztraminer, d'un Muscat, d'un Riesling, d'un Tokay, d'un Gewürztraminer, enfin, ou d'un Pinot Gris, même d'un Auxerrois ou d'un Sylvaner. Parce que l'évolution change dans le temps. Et parce que c'est vivant, entre les arômes que vous avez dans le début de la vie, déjà à la cave, entre tel ou tel terroir, il y a des profils différents. C'est comme on disait un enfant, quand ça grandit, ça se développe différemment, mais ça garde une identité du lieu. On ne va pas demander à un Alsacien d'avoir la même tête qu'un Chinois, d'un Japonais ou qu'un Africain, mais ce n'est pas pour ça qu'on arrive à vivre ensemble et se comprendre. C'est un peu pareil dans le monde du vin.
Quel a été l'âge d'or du vin ?
Ça dépend, qu'est-ce qu'on va appeler l'âge d'or du vin. Si vous voulez, les traces les plus anciennes au niveau de la plaine du Rhin, on a le fossé rhénan en Alsace, où on trouve déjà des vignes à l'état sauvage. Dans la vallée du Rhin, du fait du climat particulier qu'on a en Alsace, avec le débordement de l'île, donc on retrouve les plants sauvages, mers, naturels qui existaient en Alsace.
Qui sont les mêmes espèces qu'on cultive ?
Ces espèces ont été affinées, développées, remultipliées par terroir.
Parce qu'on parle souvent,
c'est une adaptation de la plante. C'est comme vous demandez à un cerisier ou une tomate d'avoir le même goût dans tous les pays en fonction de la terre et du climat qu'elle pousse. Elle ne donne pas les mêmes saveurs. C'est la raison pourquoi on a des AOC, on a des crus, des appellations et des règles qui permettent d'identifier ce produit. Sinon, on pourrait produire n'importe quel fruit ou légume ou saveur ou viande dans le monde entier. On devrait obtenir la même chose. Ce n'est pas le cas. Il y a une notion d'identité du lieu à travers ce que soit la plante ou les animaux ont prélevé dans le sol. Après, il faut savoir comment ils ont prélevé. C'est un peu le travail de l'association de trouver cette relation plante avec le lien du sol pour arriver à l'exprimer à travers la bouteille. Mais pour revenir sur l'histoire, où on prend dans les hommes préhistoriques, on trouve des tas de pépins dans les tumules des hommes préhistoriques. Par contre, on ne sait pas s'ils le vinifiaient ou pas. différentes thèses disent qu'en Alsace, on est passé d'un trou dans un sol recouvert de coquilles d'œufs dans de l'argile directement à la phase du tonneau. On n'est pas passé comme le reste de la France en passant par l'étape de la jarre. Parce qu'on a une autre histoire, mais un jour on trouvera en fait les preuves vont arriver. On a plusieurs clés de lecture, mais il faut des éléments plus concrets pour vraiment. On est la seule région où on ne peut pas affirmer, dans le positif ou dans le négatif, que c'est les Romains qui ont ramené la vigne. Apparemment, elle devait être avant. On sait qu'il y avait la vigne à l'état sauvage, on ne sait pas si elle était. Aller fermenter, on ne sait pas jusqu'à quel stade ils sont allés.
Donc on sait aujourd'hui qu'il y a une domestication du vivant hein, par l'homme, que ce soit dans différentes espèces. On nous parle souvent des espèces de pommes, aujourd'hui on ne trouve plus que 6 ou 10 espèces de pommes, contrairement à 40 ou 50 il y a 30 ou 40 ans, ou peut-être bien plus, ouais, ou pareil pour les tomates. Aujourd'hui, peu d'espèces sont achetables au supermarché, alors qu'il y en a des variétés, une multitude incroyable.
Pourquoi il n'y a que le supermarché? Si la personne qui a un petit jardin chez elle, vous allez chez un maraîcher, beaucoup de maraîchers ont encore des variétés qu'on appelle rustiques. C'est sûr, ils ne vont pas te donner la tomate toute ronde, toute belle. Elle va être un peu déformée, avec mélange des saveurs et des variétés. On arrive à très facilement encore avoir beaucoup de variétés. Mais les gens doivent faire un petit peu plus d'efforts. Ça ne coûte pas forcément plus cher. Souvent, les personnes sont même contents qu'il y ait encore des gens qui font l'effort de transmettre ce patrimoine génétique. Ben, au fil des siècles et des générations, on adapte, on va dire, on trie ou on recense des plantes qui sont le mieux adaptées à cet endroit. Mais cette même sélection, je la ramènerai chez un des autres collègues de l'association, sur un autre climat, sur un autre terroir, la plante, le gène, exprimera tout à fait autre chose. Pourtant, on est parti de la même carte génétique, parce qu'il y a un autre climat, un autre terroir, et c'est d'autres choses qui vont s'exprimer.
Quand on parle de cépage, on parle d'espèce. Un cépage correspond à une espèce de vin?
Les gens comprennent plutôt la notion de variété. C'est comme dans les pommes, je veux dire, entre une Golden et une Granny Smith, si on veut. C'est dans la classe des pommes, mais c'est des sélections, des adaptations de certains cépages ou des variantes. Par exemple, quand la vigne fleurit, il y a des pollinisations. Donc, en fonction que les abeilles avaient pollinisé telle plante, il y a des croisements naturels qui se font. Vous avez par exemple un cépage comme le Pinot Gris ou le Pinot Noir. Ben, ça nous arrive d'avoir régulièrement, si vous promenez dans les vignes quand le raisin est verré, c'est-à-dire il a pris la couleur, ben, vous pouvez avoir des portions des demi-baies ou des quarts de baies qui ont une couleur, parce que quand les abeilles ont pollinisé, avait encore un peu de pollen, peut-être d'une fleur de cerisier, ben, elle a un petit peu transformé une partie du code génétique. Si on reprendrait ce pépin, on ressemerait, on fait le travail, on arriverait à trouver une évolution, donc une adaptation. Et en fonction des pays, des climats, l'homme a fait qu'on a cherché d'autres variétés. C'est la raison pourquoi on a différents cépages dans différentes régions et sur différents climats. Et même dans la même région de l'Alsace, un Riesling qui va être produit à Rorschwihr ou à Châteauneuf, chacun a son type et sa personnalité. Après, le consommateur doit faire l'effort. Ben, peut-être en été, il va préférer, ou sur une salade ou un poisson d'eau douce, il va préférer ce type de terroir. Et par contre, sur des poissons en chair grasse, il va préférer peut-être l'autre terroir. Et c'est absolument pas antinomique. C'est la richesse de l'Alsace. Et ça existe depuis toujours.
Alors, si vous étiez une grappe de raisin, vous seriez quel cépage et dans quel sol vous pousseriez?
un Riesling sur du granit.
Pourquoi?
Moi, je considère que le Riesling, c'est un des cépages qui a le plus de qui a énormément de caractère.
Donc une grappe plutôt masculine pour le coup.
Plutôt masculine, en tout cas sur ce type de sol dont je vous ai parlé, sur du granit. Ça vous donnera des vins qui resteront quand même fins et élégants, mais qui auront une belle fraîcheur qui sera un peu plus masculine. Mais c'est le type de raisin que je serais.
Et vous, en tant que grappe de raisin, vous seriez où?
Moi, je vais dire l'opposé à Georges Straminer. Parce qu'on a sur notre commune une telle diversité en fonction des terroirs, que c'est un cépage sur les sols calcaires, a une identité assez particulière, qui évolue et se complexifie dans le temps. Donc il y a une notion de mémoire. Mais bon, quand il parlait du Riesling, il y a ce même principe aussi qui existe. C'est un peu demander à un viticulteur, un cépage, si vous poseriez la question à quel moment, en quelle occasion, on peut très facilement vous répondre. Réduire juste à un aspect, c'est comme vous demandez à un grand peintre, quel est ton plus beau tableau, est-ce que c'est l'œuvre finie qui veut exprimer, est-ce que c'est la réussite de son travail ou l'expression de son identité. Donc c'est un peu, quelque part, la question peut être réducteur, mais ça permet plutôt, ça dépend où le viticulteur veut se placer. Est-ce qu'il veut se placer dans un transfert de connaissances de ses générations précédentes ou quelque chose qu'il veut communiquer, par exemple, au consommateur.
Donc c'est ça qui me plaît dans ce que vous dites, c'est que c'est un moyen de s'exprimer. On peut s'exprimer à travers le vin qu'on produit.
Ben, c'est très rare d'avoir même des gens qui n'ont jamais goûté de vin ou qui... Ça arrive qu'il y a des gens qui ne boivent pas du tout d'alcool. Alors souvent dans le caveau, on essaye à insister qu'ils sentent au moins juste les arômes. Et beaucoup de gens, simplement sentant la complexité, la diversité des arômes, ont commencé à déguster un petit peu de vin. Les vignerons alsaciens, les vignerons indépendants, le leitmotiv, c'est, je vais vous résumer la situation, si tous les gens en France consommeraient deux verres de vin à table, à midi et le soir, on n'aurait plus assez de vin en France. Il ne faut pas oublier que dans tout le monde, on plante de la vigne, et en France, on fait que d'arracher et de restreindre les surfaces viticoles, où le monde agricole et viticole est plutôt très malmené, voire en disparition, je ne veux pas dire une mort petite lente. Heureusement qu'il y a le reste du monde qui remet des fois la machine en route et qui redonne des fois du baume au cœur dans certaines régions et dans certains pays, parce qu'il y a plutôt une méconnaissance ou plus une volonté de curiosité des gens. Les gens sont plutôt... bon, c'est peut-être l'évolution de la société, mais il y a une notion de facilité. C'est vrai que quand vous goûtez un verre de vin, ça fait travailler déjà les yeux, le nez, la notion gustative, ça fait travailler le cerveau. Et souvent, ça fait que la personne va essayer d'échanger avec la personne en face, que ce soit avec le viticulteur, que ce soit avec ses amis. Ça crée, ça oblige à la personne à un peu sexualiser, de provoquer un échange. Et l'échange... ça fait qu'on se remet un peu en cause, qu'on se dévoile, qu'on dit un peu ce qu'on pense, à son niveau. Mais c'est en gros une forme de lien social.
Par rapport à l'avenir du vin, là je pense à l'Alsace, il y a une légende urbaine qui circule dans les rues de Colmar. Vous allez me dire si c'est vrai ou pas. On entend dire qu'avec le réchauffement climatique, il y a une pression donc, sur le milieu naturel qui s'exerce, et les vins qui poussent dans le sud de la France auront de plus en plus de mal à pousser, seront de moins en moins productifs, et que l'Alsace, qui est une région un peu plus au nord, a encore de beaux jours devant elle.
Réchauffement climatique, qu'est-ce que vous entendez? Bon allez, je vais faire une petite boutade, juste pour rigoler.
Allez.
2003, année caniculaire, l'année la plus chaude où le citoyen, entre guillemets, se souvient, parce que les nuits étaient très très chaudes. Alors on va utiliser des exemples alsaciens, on est en Alsace, la question est pour l'Alsace. Réchauffement climatique, oui, ça dépend à quelle échelle. Par exemple, en 1834, les amandiers ont fleuri au Mandelberg le jour de Noël. En 2003, les amandiers ont fleuri en Alsace le 1er février. Donc on a déjà eu des millésimes extrêmes. Malgré ça, on a continué à avoir nos cépages, nos variétés en Alsace. C'est vrai qu'il y a le taux de CO2 qui augmente dans l'atmosphère, donc ça crée des surfaces foliaires, le végétal s'adapte un peu différemment. La vigne, il ne faut pas oublier, c'est la plante, c'est une liane, c'est une plante très rustique, elle pousse où il n'y a rien qui pousse. C'est une des plantes qui a une capacité de chercher les oligo-éléments, d'avoir une symbiose avec le vivant, s'il y a une activité biologique, de prendre... ses nutriments à un endroit où d'autres plantes ne savent pas faire ça, et de donner ce fruit. Sinon, on pourrait mettre la vigne partout, on peut, mais il n'y a pas cette identité de terroir. Dans la vigne, vous n'allez pas pouvoir planter facilement, je veux dire, du maïs ou vos patates, ou sur un tas de cailloux, il faut attendre quelques années, la vigne sait faire. Les racines les plus profondes, par exemple, vous parlez de Colmar, c'est 27 mètres.
On inspire. On expire. On respire. On souffle.
Carbone zéro.
Une mission pour semer des idées,
planter des projets,
récolter des solutions, afin que le monde et la Terre tournent plus rond. Thank you.